Bonsoir Nicolas Bonneau et Fanny Tastic. Bonsoir Michael Plugnan. Vous êtes réunis pour un spectacle tout frais. Ali 74, le combat du siècle. Alors pourquoi avoir voulu faire un spectacle sur Ali, Mohamed Ali, le boxeur ?
Bien parce que c'est si on le dit sérieusement, c'est un personnage un peu mythique. Donc dont l'histoire permet d'être raconté, un héros contemporain, c'est une légende contemporaine. Donc voilà, il y a quelque chose de fascinant. Comment est-ce qu'on devient un héros aujourd'hui, par exemple ? Et puis Ali, il est à la fois dans l'intime, la personnalité, l'humain, et en même temps, il brasse avec lui tout un monde, tout un contexte politique, une époque. Et puis il y a l'univers de la boxe, qui est un univers assez fascinant. Donc c'est un bon prétexte à raconter une bonne histoire.
Oui, parce qu'en effet, Mohamed Ali, le combat du siècle, sert de prétexte un peu pour parler de plein d'autres choses, c'est-à-dire du racisme qui régnait encore aux États-Unis dans les années 50-70.
Exactement.
Non, du racisme et surtout de l'engagement politique d'Ali. C'est-à-dire que, comme on dit, Mohamed Ali, on s'appelait lui-même « the greatest », ce qui veut dire le plus grand, et non pas le plus grand boxeur, mais le plus grand, c'est-à-dire que ça dépassait la boxe. Certains boxeurs qui ont été des adversaires d'Ali n'aimaient pas qu'on parle de Ali en tant que, comme d'un boxeur, parce que beaucoup disaient qu'il était plus qu'un boxeur, c'est-à-dire qu'il sublimait un peu son art, l'art de la boxe, et débordait vraiment dans le cadre politique, etc. Quoi. Notamment son engagement... contre la guerre du Vietnam, ça a été un des premiers, par exemple, à s'opposer à la guerre du Vietnam à une époque où absolument personne, le monde entier détestait Ali à l'époque où il a refusé d'aller combattre au Vietnam, par exemple. Donc, effectivement, la personnalité d'Ali qui fait qu'il sublimait le sport fait que, effectivement, le spectacle parle aussi d'autres choses, aborde toutes les thématiques, mais qui sont impulsées vraiment par justement la personnalité d'Ali. Voilà.
Si ça avait été que de la boxe, on n'aurait pas fait le spectacle, il fallait qu'il y ait autre chose en plus, quoi. C'est pour ça que ce combat, il est entré dans la légende, parce qu'il y a l'Afrique en plus aussi. Et voilà, puis c'est des époques, et pour nous aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous, on ne sait plus trop contre quoi se battre, les choses sont plus compliquées, c'est moins frontal. Donc voilà, ça nous remet dans cette époque-là, je pense qu'il y a un peu d'envie de se battre, un peu de lumière qui encore sort pour aujourd'hui.
Alors moi, j'ai envie de venir sur la mise en scène, puisque quand tu commences, Nicolas, sur scène, tu fais des références cinématographiques avec Rocky, par exemple, tout ce qui a trait à la boxe. Et la boxe intervient ensuite. Enfin, il y a une mise en scène aussi. Il y a de l'image vidéo qui intervient avec le match du siècle donc, qui a lieu à Kinshasa, au Zaïre, en 1974. Et viennent interférer des images de Rocky, des images de d'autres boxeurs que je ne connais pas. Enfin, le cinéma prend une place importante dans la mise en scène.
Oui, puis nous, on est d'une génération qui avons grandi avec le cinéma. Finalement, on a découvert la boxe par le cinéma aussi. Et on s'est vite rendu... C'est une époque où les médias sont très importants. Donc on s'est à un moment donné rendu compte que le meilleur moyen de rendre aussi ce combat, c'était avec la musique et avec l'image vidéo. Et avec un montage des images, parce que le combat en lui-même... si on l'avait diffusé tel quel, ça serait pas forcément passionnant, en le mélangeant avec d'autres images de cinéma. Donc voilà, de servir de tous les médias pour raconter l'émotion, la puissance des coups, la force d'un combat, de rendre une puissance par tous ces médias. Et puis voilà, c'était un essai de travailler avec la vidéo un peu autrement, quoi, la façon d'un ciné-concert, mais en y rajoutant le côté récit aussi, dramaturgie et pédagogie même par rapport à la boxe.
Oui, c'est ça, tu parles de pédagogie, en effet, le spectacle, je trouve que le spectacle est très didactique aussi, parce que tu nous expliques plein de choses d'ordre très technique, et c'est vrai qu'on en sort ravis. Enfin, moi je connaissais rien à la boxe, je trouve que c'est violent, enfin, j'ai cette appréhension-là quand je vois un match, et là du coup de comprendre ces histoires de jappe, jappe droit, jappe gauche, l'un plus rapide que l'autre, on découvre toute la beauté de la boxe. Et toute la subtilité qu'il y a dans un jeu de boxe. Donc tu as dû sans doute apprendre à faire de la boxe un peu, parce que tu donnes des coups de jappe aussi pendant le spectacle.
J'ai été champion du Poitou. Et j'ai livré un grand combat contre la Gazelle Dorée, notamment, qui est assis à côté de moi. Donc on est à fréquenter les salles de boxe, ouais, pour savoir de quoi on parle, quoi, simplement.
Mais finalement, en fait, on est... au départ, on était comme toi, c'est-à-dire qu'on n'y connaissait pas grand-chose à la boxe. On s'y intéressait pas plus que ça. Finalement, c'est cette histoire-là qui nous intéresse, mais plus que la boxe, finalement. Et ces choses qu'on apprend sur la boxe, ça montre notre parcours aussi dans cette histoire-là, quoi. Comment on a nous appréhendé cette histoire-là, il a bien fallu effectivement s'immerger. Enfin, c'est le travail que Nicolas fait souvent dans ses travaux de création. C'est une immersion, un travail presque documentaire finalement. Et donc il y a cette immersion-là. Et la trace de cette immersion-là est aussi racontée dans le spectacle. Finalement, nous, notre apprentissage de la boxe, on le transmet. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cette chose-là, c'est-à-dire que c'est une volonté de partager toute l'expérience autour de ce combat-là, quoi.
Et puis du coup, les personnes qui n'aiment pas la boxe, alors il y a Lucienne qui est derrière nous, elle n'aimait pas la boxe, et là, elle a découvert plein de choses, et elle a bien aimé quand même, donc voilà, c'est aussi intéressant que ça soit pas excluant, pas réservé aux gens qui aiment la boxe, donc chacun, voilà, il y a différents degrés de lecture, quoi, du coup.
Mickaël vient de dire que c'est un travail documentaire et donc vous êtes allé jusqu'au Zaïre puisqu'il y a cette femme-là qui chante l'hymne national. Donc tu es allé là-bas pour la rencontrer ?
Oui, on est parti en juin dernier là-bas pour aller dans le stade justement voir quelles traces il restait un petit peu du combat. Et c'est pour ça qu'il y a cette vidéo, voilà, qui est une des traces du collectage qui est dans le spectacle. Et pour la petite histoire, effectivement, Philomène qu'on voit et Valentin, qui est un des personnes qui nous ont accueillis à Kinshasa, devait être là cette semaine pour voir le spectacle, du coup. Mais voilà, les visas, tout ça a l'air bien compliqué, donc ils n'ont pas pu venir. Donc c'est vrai qu'on aurait bien aimé que Philomène, dans la salle, puisse découvrir... Mais on est toujours aussi ému quand on entend sa voix éraillée qui arrive et qui chante cette zaïroise. On a le souvenir de... C'était juste avant qu'on parte.
Et puis c'est un moment d'histoire parce que Philomène, en lien avec ce combat, Philomène, elle était vraiment enfant quand ce combat-là a eu lieu, donc, ça aurait pas, c'est pas anodin que ce soit elle qui soit là. C'est-à-dire que, c'est ça.
C'est-à-dire que pour les gens, ce combat reste présent quand même dans l'histoire de leur pays, dans l'histoire de leur vie. C'est un âge d'or en fait. Le combat coïncide avec un âge d'or, celui de Mobutu, même si c'était une certaine forme de terreur, d'un âge d'or un peu économique, quoi. Et juste après, ça va. Puis le monde avait les yeux rivés sur Kinshasa et sur le Zaïre, donc il y avait une fierté aussi, quand même. Puis d'avoir Ali, quand même, qui était une des personnes les plus connues du monde, débarqué chez eux, voilà, c'est un mythe. Je sais plus, je disais il n'y a pas très longtemps dans un bouquin que c'est à Kinshasa que Cassius Clay est vraiment devenu Mohamed Ali. Voilà, finalement, c'est peut-être ce combat et l'Afrique qu'il a vraiment révélé en tant que Mohamed Ali, musulman, Don Quichotte des droits civiques, en tant que que cette dimension politique-là.
Et je suppose aussi que Ali a fait en sorte que ce match-là soit le match, quoi. Enfin, le rende vraiment très célèbre, puisqu'il a étudié le jeu de George Foreman pour trouver sa faille, puisque George Foreman n'avait perdu aucun de ses combats. Il avait battu ceux qui avaient réussi à battre Mohamed Ali. Donc Ali a mûri son coup, il l'a réfléchi. Il a fait en sorte aussi que le public soit de son côté à lui, avec ses actions politiques notamment. Donc c'était travaillé de sa part.
C'est tout ce que vous dites.
Puis c'était le moment pour lui pour rentrer dans la légende. C'est là toute son intelligence, c'est-à-dire c'est à la fois une intelligence sportive, une intelligence politique et puis une intelligence médiatique aussi, quoi. Comme on dit dans le spectacle, Ali est arrivé à l'époque où les médias prenaient de plus en plus de place. Et Ali, il avait cette intelligence-là, justement, de saisir le moment, quoi. Et donc là, effectivement, un événement mondial, avec une retransmission télévisée mondiale, c'était un des premiers événements qui était retransmis mondialement. Et... voilà, donc c'est peut-être ça qui font les grands héros de l'histoire. C'est des gens qui savent saisir aussi un moment historique et qui savent être là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Et donc il y a ça, effectivement. Et donc il y a une triple performance un peu, à la fois politique, à la fois sportive, à la fois politique, à la fois médiatique. Et tout ça était très mêlé, quoi. Et il a su mêler ça vraiment avec brio, quoi.
Ce combat a été gagné en 8 round, et ces 8 rounds sont bien marqués pendant le spectacle. Moi, j'ai vu ça un peu comme des actes de théâtre.
Oui, la dramaturgie, elle est construite en 8 rounds, plus chaque round est une évolution vers la fin, une façon d'évoquer une thématique aussi. Et puis, il y a tous les coins, c'est-à-dire entre un round, il y a des interludes, des intermèdes, et il y a des endroits où on se repose, des endroits où on peut parler d'autres choses, des digressions. Et il y a un suspense qui monte. Après, c'est vrai qu'on se rend compte, tout le monde ne sait pas à quel moment le combat s'arrête. Il y a des gens qui connaissent, donc ils savent que c'est au 8e, puis des gens qui disent, bon, on espère qu'il n'y en a pas 20, quoi. Ou 15, ou 100.
Et d'ailleurs, la question que je me suis posée, il a duré combien de temps ce combat ?
Bah, c'est assez court, hein, 8 rounds de 3 minutes, ça fait 24 minutes, plus les coins. Donc c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur beaucoup d'autres formes d'images.
Donc on a peut-être vu la totalité du combat en vidéo ?
Oui, il est quasi total. Après, il est remonté, remixé, mais en gros, oui. Oui.
Finalement, quand on résume ce combat-là, il y a... Il y a trois rounds finalement parmi ces huit là qui sont vraiment intéressants, qui sont trois rounds qu'on a isolés. Il y a le premier round qui est le début du combat, les choses commencent à se mettre en place. Ensuite, comme on dit dans le spectacle, Ali, et comme c'est passé dans la réalité, Ali s'est mis dans les cordes et il a épuisé, il a mené tout un travail de sape, il a encaissé les coups jusqu'au cinquième round où il sent que son gâteau il commence à être cuit et il commence à planter quelques fourchettes dedans, quoi. Donc on a isolé le premier round, le cinquième round et le huitième round qui est le round de la victoire. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, quand on regarde le combat, tous les rounds se ressemblent un peu. C'est vraiment beaucoup d'attentes, de tactiques. Et sportivement, enfin tactiquement, ça peut être intéressant, mais spectaculairement parlant, enfin théâtralement parlant, c'est vrai que c'est pas hyper intéressant, quoi. Le combat est même assez ennuyeux à regarder puisqu'il se passe rien. Il y a Foreman qui tape sur Ali et Ali qui encaisse les coups, quoi. Il se passe que ça finalement dans le combat, jusqu'au retournement de situation que personne n'attendait. Donc théâtralement c'est génial, un suspense incroyable, on s'y attend pas du tout et puis voilà.
C'est comme toutes les histoires, quoi. C'est la manière dont on les raconte qui fait qu'elles sont passionnantes ou pas. Voilà. C'est vrai que si on diffuse le combat comme ça devant les gens, bon ben voilà quoi. C'est qu'après comment on la met en abîme, comment on la transcende.
Nous, ce qui s'est passé, on avait vu le combat et à notre première résidence de travail, de création, on a été dans une salle de boxe à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, et on a été coaché par un entraîneur qui s'appelle Moustapha, et on a vu le combat avec lui. On lui a montré le combat et on lui a demandé de nous l'expliquer. Et en fait, on n'avait rien compris au combat. C'est-à-dire que si on ne nous l'explique pas, on ne le comprend pas. Et il nous l'a bien disséqué, il nous a bien expliqué ce qui se passait, etc., qui n'est pas exactement ce qu'on raconte d'ailleurs, puisqu'on a pris des libertés par rapport à ça, puis on a eu des points de vue différents.
Par exemple, la dramaturgie un peu magique avec cette femme vaudou, c'est une prédiction. Voilà, on a introduit aussi la dimension, c'est la dimension de l'Afrique finalement, la femme vaudou. Voilà, c'est cette dimension-là. Donc voilà, on y introduit de la dramaturgie, quoi, de l'histoire. On le met en perspective avec cette prophétie, avec un petit conte africain au début. On lui met un petit bijou, quoi, un petit écrin pour l'enrober. Et puis on lui fait dire un peu ce qu'on a envie de lui faire dire, nous aussi, quoi. Parce que même si c'est un combat que tout le monde connaît, il faut que ça soit notre point de vue quand même. Si on n'a rien de plus à dire que les autres. Donc voilà, on a essayé de mettre notre petit grain de sable ou de sel, de piquant, quoi. Notre petit regard à nous.
Et donc il y a Fanny Tastic qu'on n'a pas entendu. Et donc Fanny et Mickaël, vous avez travaillé la partie musicale et chanter, enfin, vous apparaissez un peu comme un coryphée dans le spectacle. Donc comment avez-vous travaillé la musique ?
Mickaël a vraiment travaillé la base de tous ces morceaux, c'est-à-dire après il y en a certains où je suis repartie d'une autre émotion, mais il est vraiment à la base de la dramaturgie musicale. Et puis et ensuite je suis venue amener moi, ce que je sais faire, c'est assez vocal, c'est assez live, ça va être le souffle, ça va être tout cet aspect très physique que je vais pouvoir donner dans l'histoire. Voilà.
Et en fait, dans notre manière de travailler avec Nicolas, on a vraiment co-écrit toute l'architecture du spectacle ensemble, à savoir, j'ai pas simplement amorcer la musique, c'est-à-dire on a travaillé ensemble, c'est-à-dire on a mis un bout de musique, un bout de texte, on s'est dit tiens, ok, ça, ok, tiens, telle architecture, ok, en 8 rounds, donc du coup ça veut dire 8 parties, ok, qu'on peut compléter avec ça, etc., 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 etc. Ça a été vraiment une construction empirique comme ça, de petits bouts qui s'architecturaient les uns avec les autres. Des fois on ramenait de la vidéo d'abord et on se disait ah bah tiens, on pourrait mettre ça comme son sur la vidéo. Des fois on ramenait un morceau de musique, on se dit bah tiens, ce qu'il nous faudrait c'est ça comme comme vidéo, etc. Et donc c'est comme ça que ça s'est... C'est comme ça plutôt que ça s'est articulé. C'est-à-dire, y a pas, j'ai pas vraiment fait une composition musicale, c'est plus une composition de... Enfin, c'est plus un patchwork un peu grossier qu'on a commencé à créer. Et puis, puis après, ben, du coup, après, on a travaillé avec Fanny... qui, moi j'aurais bien aimé travailler avec un bassiste, un guitariste, deux guitaristes, un batteur et tout ça, un accordéon et une décoriste et tout ça, et Fanny elle peut faire tout ça en même temps, donc du coup c'est parfait. Mais on avait déjà travaillé ensemble un petit peu avec Fanny, mais moi je voulais travailler avec Fanny de toute façon. C'est vrai qu'elle a un panel tellement large qui peut être dans plein de genres différents, déjà plein de styles différents, ce qui correspond assez bien au patchwork qu'on avait commencé à dessiner, à cette architecture un peu branlante. Et puis aussi, je voulais travailler avec une femme. Je trouve que la dimension féminine, elle est hyper importante. Un contrepoint féminin est hyper important. Par exemple, quand on parle de la femme vaudou, ben, finalement, elle porte un peu... C'est un peu notre femme vaudou sur le spectacle. Ce point de vue féminin, et puis un point de vue, nous, la boxe, pour la boxe, nous intéresse pas tellement, la violence de la boxe nous intéresse pas tellement, on la trouve belle, moi je trouve la violence de la boxe assez belle, mais c'est juste, esthétique, et je trouve qu'il fallait un contrepoint justement à cette violence-là, une douceur, une finesse, voilà, quelque chose que je trouve qu'une voix féminine pouvait apporter, et si c'était pas une femme qui était à la place de Fanny, mais c'était un homme, bah ça n'aurait pas marché pareil, en fait, la sauce. Ça méritait vraiment d'un contrepoint, une voix féminine, et puis en plus, bah, Fanny, elle sait tout jouer en même temps, donc elle sait faire 10 000 trucs à la fois, donc ça marche bien. Et puis en plus, moi, je travaille, quand je compose... je travaille donc avec des samples, des machines, je ramène plein de sons, mais je travaille... assez vite, enfin, je dis ça sans prétention, mais c'est vrai que je ramène vite des matériaux et après je taille dedans. Mais en un quart d'heure, je peux rapidement vite ramener des matériaux et puis après on peaufine et il faut 3 mois pour faire un morceau. Mais Fanny, elle est un peu pareil, elle est hyper intuitive et du coup, on a travaillé comme ça, de manière assez intuitive et voilà.
On s'ennuie pas.
Donc, non, on s'ennuie pas et je précise que Fanny donc, joue du clavier. Et de l'accordéon pendant le spectacle. Parce que si on n'écoute que Mickaël, on va croire que...
Non, mais effectivement, elle joue de l'accordéon, du clavier, mais elle joue aussi... Le clavier joue tout un tas d'instruments. Enfin, voilà, maintenant, on peut jouer de la basse et de la batterie avec un clavier. Mais,
Même l'accordéon, je le pense... Alors, le rendu est ce qu'il est, mais je le pense comme un peu, des fois, des cuivres... des choses un peu tendues comme ça qui arrivent. Donc même l'accordéon, moi, quand je le fais, je pense à d'autres instruments en le faisant. Effectivement, mais de fait, je ne joue ni trompette, ni cornemuse.
Ce que j'aime bien dans l'accordéon qu'elle fait, c'est... on parlait de ça l'autre jour, j'adore Pauline Oliveros, par exemple. C'est ces grosses nappes d'accordéon qui sont presque des drones comme ça, qui amènent une tension, qui sont très cinématographiques. Moi, l'accordéon, c'est un instrument à la base qui m'intéresse pas tellement, pour les clichés qu'on peut avoir à la con sur l'accordéon, mais moi j'adore vraiment les gros drones, les sons qui s'étirent, les notes graves qui peuvent sortir comme ça et qui vraiment étirent le temps, l'espace-temps, et je trouve ça hyper cinématographique. C'est quand je pensais à ce que Fanny pouvait faire sur ce projet-là, c'est sûr que. Je pensais aussi à ça, quoi. Enfin, voilà.
Donc, à l'origine du projet, c'est toi, Mickaël, et Nicolas, non ?
En fait, c'est même tous les trois. On jouait un autre spectacle à Avignon, et on avait vu un spectacle que je ne citerai pas, mais qui est une sorte de ciné-concert sur un match de foot sur Séville 82. Voilà. Pour ne pas le citer. Et en fait, on a trouvé que c'était une idée géniale. On l'avait vu au tomber de la nuit à Rennes. On a trouvé que la présentation, la mise en scène était plutôt intéressante et tout ça. 3 musiciens comme nous, un écran vidéo et un match de foot qui est diffusé avec un match de foot avec un scénario incroyable, France-Allemagne 82. On a trouvé que c'était un peu l'idée du siècle qui savait. On s'est dit putain, mais c'est une super idée. Et en fait, on a été vraiment très déçus du rendu, du résultat. à savoir qu'il y avait une belle présentation et puis finalement on a été assez déçus du résultat. Ouais. On a trouvé que justement le scénario, ils n'étaient pas à la hauteur du scénario. Enfin voilà, je ne suis pas critique théâtrale, c'est un point de vue personnel. Et puis voilà, et on va jouer à Avignon au mois de juillet, juste après ce spectacle-là. Et puis Nicolas nous dit un soir... on parlait de ce spectacle-là et il nous dit j'avais envie depuis longtemps de travailler sur le match de boxe de Mohamed Ali et de George Foreman. Nous, on ne connaissait absolument, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et il commence à nous raconter l'histoire. Il avait vu le documentaire When We Were Kings de Léon Gast. Et puis on s'est dit, Fanny dit, mais il faut qu'on fasse un ciné-concert. Non, mais c'est vrai, c'est pas une légende. Il faut qu'on fasse un ciné-concert, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On a trouvé que c'est 82. C'était pas à la hauteur de l'événement, il faut qu'on fasse ça. Et donc c'est parti de cette idée-là et on s'est dit ok, on a le prochain spectacle, ça va être ça.
Nous, on a un bonhomme qui parle aussi, donc c'est un ciné-récit-concert en fait.
Il fallait intégrer le récit effectivement. Et puis avec Nicolas on avait déjà travaillé sur deux spectacles, on a commencé à travailler ensemble sur l'architecture du spectacle, l'architecture vidéo, les textes qu'il pouvait y avoir dedans, les thèmes abordés, comment ça allait être articulé, la musique qu'on allait pouvoir mettre, et etc etc, et voilà. Voilà pour la genèse du spectacle. On parle de quoi maintenant ?
Oh bah je pense qu'on a fait le tour, donc je vous remercie.